Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 8 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Washington menace d'arrêter sa coopération avec le Burkina Faso suite à un rapport sur des exactions des forces de l'ordre. En Éthiopie, 239 personnes ont été tuées dans les manifestations la semaine dernière, selon un bilan de la police révisé à la hausse. L'ONU alerte sur le conflit intercommunautaire dans le Tanganyika en RDC qui a fait 12 nouvelles victimes récemment. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, appelle le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à appliquer les propositions de la CEDEAO. Et les États-Unis se retirent officiellement de l'OMS. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Les États-Unis ont exigé une action rapide des autorités burkinabées contre les exactions commises par ces forces de l'ordre menaçant d'arrêter leur soutien sécuritaire au Burkina Faso. L'aide américaine pour la sécurité ne peut pas continuer sans une action contre les abus, a déclaré Tibor Nagy, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, qualifiant de très préoccupant le rapport de Human Rights Watch sur les exécutions extrajudiciaires de 180 personnes. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Crise politique au Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé le président Ibrahim Boubacar Keïta à appliquer les propositions de la CEDEAO pour sortir son pays de l'impasse. Éric Manirakiza nous en dit plus.
Les présidents des États du Sahel ont exprimé dans le cadre de la CEDEAO un certain nombre de propositions visant à atténuer la crise et à apaiser le climat politique, a déclaré Jean-Yves Le Drian devant l'Assemblée nationale. Nous souhaitons que ces dispositions initiées par la CEDEAO puissent être mises en œuvre par les autorités maliennes actuelles, a-t-il ajouté. Monsieur Le Drian a également réclamé la libération du chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dans la région de Tombouctou. La CEDEAO prône la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation d'élections législatives partielles dans les circonscriptions disputées. Le président malien s'est dit prêt à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais n'a pour l'heure pas donné suite à l'idée de législatives partielles. Après l'annulation de l'élection d'une trentaine de candidats aux législatives de mars-avril, au profit notamment du camp présidentiel, de premiers rassemblements antigouvernementaux ont eu lieu. Le mouvement dit du 5 juin, qui a fait descendre dans les rues de Bamako des dizaines de milliers de personnes à deux reprises en juin, appelle à un nouveau rassemblement contre le président Keïta vendredi. Déjà confronté depuis 2012 à des attaques djihadistes et des affrontements communautaires meurtriers, cette contestation risque d'empirer la situation.
Une explosion accidentelle sur une plateforme pétrolière du sud du Nigeria dans le delta du fleuve Niger a coûté la vie à 7 travailleurs, a annoncé la compagnie pétrolière nationale. L'accident s'est produit mardi pendant l'installation d'une échelle sur une plateforme d'un champ de Gbetiokun, causant la mort de 7 employés d'une société sous-traitante. En République démocratique du Congo, une centaine de personnes sont mortes depuis le début de l'année dans des violences au Tanganyika et qui ont fait de nouvelles victimes récemment. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le ministre de l'Intérieur de la province du Tanganyika, 12 nouvelles victimes, des civils, ont été tuées lors de l'attaque du groupe armé Apanapale dans la région minière du Mungunga, au centre de la province. 6 assaillants ont également été tués par les forces de sécurité, a dit l'officiel. Il a précisé que les miliciens Apanapale ont utilisé des pygmétois lors de leur attaque qui ciblait essentiellement des sites d'exploitation artisanale de l'or. Dans cette même province du Tanganyika, les affrontements entre les milices de la minorité pygmée et celles des Bantous majoritaires ont déjà fait une centaine de morts parmi les civils depuis le début de l'année, selon un rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La présence du groupe armé Apanapale dans la région a également contribué à l'insécurité, étant donné la présence limitée des forces de sécurité dans la province, a ajouté M. Guterres dans ce rapport. Le contrôle des ressources foncières et minières sont au cœur de ce conflit, selon le document. En 2016-2017, des dizaines de milliers de civils avaient fui les violences entre pygmées et bantous dans la région. Les organisations humanitaires ont avancé le chiffre de 500 000 à 650 000 déplacés.
En Éthiopie, au moins 239 personnes ont été tuées dans les manifestations la semaine dernière, selon un bilan de la police révisé à la hausse. John Lyndon.
Aujourd'hui, sur la télévision nationale, le chef adjoint de la police de la région Oromia, Mustapha Kedir, a précisé que 9 policiers, 5 miliciens et 215 civils ont perdu la vie. Certains ont été tués dans la répression des manifestations par les forces de sécurité et d'autres dans des affrontements entre membres des diverses communautés. Monsieur Kedir ajoute que pour contrôler cette agitation, plus de 3500 suspects ont été arrêtés. Auparavant, la police d'Addis Abeba avait indiqué que 10 personnes, dont 2 policiers, avaient trouvé la mort dans la capitale. Addis Abeba et la région Oromia qui l'entoure ont été la semaine dernière le théâtre d'une flambée de violences qui ont été déclenchées par le meurtre d'un chanteur populaire, Achalou Oudeza. Il a été abattu par des inconnus dans la soirée du 29 juin à Addis Abeba. Achalou a été le porte-voix des Oromo qui avaient dénoncé leur marginalisation dans des manifestations qui ont débouché sur l'arrivée au pouvoir de M. Abiy Ahmed, lui-même membre de l'ethnie Oromo.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé une interférence étrangère ayant atteint des niveaux sans précédent en Libye avec la livraison d'équipements sophistiqués et le nombre de mercenaires impliqués dans les combats. Lors d'une visioconférence ministérielle du Conseil de sécurité, il a exprimé son inquiétude sur le regroupement de forces militaires autour de Sirte. L'État tunisien a défendu aujourd'hui en appel devant la justice française sa demande d'extradition de Belhassène Trabelsi, beau-frère de l'ancien président Ben Ali, assurant qu'il disposerait du droit à un procès équitable dans son pays. Le 24 juin, un avis favorable avait été requis devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais l'État tunisien n'avait pas été convoqué. Le Soudan a allégé le couvre-feu et plusieurs restrictions pour endiguer la pandémie de Covid-19. Magasins et restaurants ont été rouverts à Khartoum, où le couvre-feu restera en vigueur de 18h à 5h, mais il a été levé dans le reste du pays, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis se retirent officiellement de l'OMS que Donald Trump accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de Covid-19. Nani Talani nous en dit plus.
Washington a envoyé la lettre de notification de son retrait au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a confirmé l'avoir reçu. Pour que la décision soit effective, les États-Unis, membres fondateurs de l'OMS, doivent être à jour dans leurs contributions et respecter un délai d'un an. Ce retrait ne sera effectif que le 6 juillet 2021. Les États-Unis apportent 15% du budget de l'agence onusienne, soit 400 millions de dollars par an. Des responsables de santé et des adversaires de M. Trump ont critiqué sa décision. Pour la Fédération des scientifiques américains, ce retrait va nuire à la lutte mondiale contre le coronavirus. Un porte-parole de la diplomatie chinoise a estimé qu'il sape les efforts internationaux et aura un impact grave sur les pays en développement. Pour le gouvernement allemand, ce retrait constitue un revers de la coopération internationale. Depuis les débuts de la pandémie, Donald Trump accuse l'OMS de se montrer trop indulgente avec la Chine où le Covid-19 est apparu. Il reproche aussi au patron de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus et de s'être montré incapable de réformer l'organisation.
Les États-Unis ont dépassé la barre des 3 millions de cas d'infection au coronavirus. Les indicateurs sont au rouge dans plusieurs États comme le Texas et la Floride. L'Iran, pays le plus touché au Moyen-Orient, a dépassé les 12 000 morts. Les autorités envisagent un retour des mesures de restriction à Téhéran. La ville de Melbourne, en Australie, applique un confinement total dès minuit. Par ailleurs, le président serbe a déclaré que le couvre-feu envisagé pourrait être évité après des manifestations qui ont dégénéré en bataille rangée à Belgrade. Les candidatures de dernière minute se multiplient à quelques heures de la clôture pour reprendre la direction de l'OMC. L'ancien ministre britannique Liam Fox s'est lancé dans la course après la ministre des Sports kényane, Amina Mohamed. Le Mexique, l'Égypte, Égypte, le Nigeria, la Moldavie et la Corée du Sud soutiennent également des candidats pour succéder au Brésilien Roberto Azevedo. Le président Donald Trump reçoit son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador pour célébrer l'entrée en vigueur du nouveau traité de libre-échange nord-américain. Avant de se rendre à la Maison-Blanche, le président mexicain a visité le Lincoln Memorial. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a préféré ne pas effectuer le déplacement à cause de la pandémie de COVID-19. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'Angola accepte de se conformer à la baisse de production de pétrole sous la pression de l'OPEP. Le gouvernement a convenu avec l'organisation de respecter le pacte mondial pour réduire l'offre convenue entre les pays producteurs de brut. Selon l'OPEP, en mai, le pays a pompé 1,28 million de barils par jour, soit 100 000 barils de plus que son objectif. L'Angola compensera la surproduction précédente en réduisant davantage la production de pétrole de juillet à septembre. En Mauritanie, la police a arrêté une employée de la Banque centrale et plusieurs complices présumés suspectés d'avoir détourné plus d'un million d'euros de l'institution. En juin, la banque a indiqué avoir découvert, à la faveur d'un contrôle inopiné, un manque de plus d'un million 400 000 euros dans ses caisses. L'employé arrêté a reconnu sa responsabilité. On ne sait pas comment le détournement a été opéré, ni quelles sont les attributions de l'employé. Terminons par la Côte d'Ivoire, où la croissance du produit intérieur brut devrait ralentir à 0,8% en 2020, contre une prévision précédente de 7,2% si la pandémie de coronavirus se poursuit à la fin de l'année. Selon le ministre des Finances Adama Koulibaly, cette situation rend difficile pour le gouvernement ivoirien de respecter son objectif de 3% du PIB cette année.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La MLS reprend ce soir avec des matchs déjà reportés pour cause du coronavirus. Entre autres rencontres, les champions en titre, les Seattle Sounders FC, feront face aux New York Red Bulls. Par contre, 5 joueurs du Nashville SC ont été déclarés positifs au COVID-19, entraînant le report du match d'ouverture du club. Le Nashville SC devait affronter ce soir le Chicago Fire. Le club a précisé que tous les cas sont apparus après l'arrivée de l'équipe à Orlando, en Floride, où 26 équipes sont basées pour le tournoi MLS Is Back. Les examens de 4 autres joueurs se sont révélés non concluants et nécessiteront davantage de tests, a précisé l'équipe. Il s'agit d'un autre coup dur porté à la reprise de la Ligue nord-américaine de football. Hier, le FC Dallas a dû se retirer du tournoi. 11 membres du club, 10 joueurs et un encadrant ayant été testés positifs au nouveau coronavirus. Le meilleur joueur de la saison dernière, Carlos Vela, ne fera quant à lui pas le voyage avec son équipe du Los Angeles FC. La MLS, suspendue après 2 journées seulement à la mi-mars, reprend donc sous un format similaire à la Coupe du Monde, avec phase de groupe et élimination directe à Disney World en Floride. La reprise de la NBA est aussi mise à mal par la propagation du nouveau coronavirus. En cas de propagation significative du nouveau coronavirus chez les joueurs, la saison de NBA qui doit reprendre le 30 juillet dans la bulle de Disney World serait à nouveau menacée, a prévenu le patron de la Ligue, Adam Silver. Alors que les équipes de NBA se rassemblent à Orlando en Floride en vue de reprendre la saison, Silver a déclaré qu'il s'attend à ce que certains joueurs soient testés positifs au COVID-19. Mais ce qui serait inquiétant, selon lui, serait de voir des joueurs testés positifs une fois placés en quarantaine après les 351 premiers tests effectués depuis le 23 juin. 25 joueurs ont été testés positifs, a révélé la NBA le 2 juillet. 10 membres du personnel des clubs l'ont aussi été. En Europe, Salomon Kalou quitte le Hertha Berlin. L'annonce a été faite par le club qui a cité les noms de plusieurs autres joueurs concernés en dehors de l'attaquant ivoirien. Il s'agit de Marco Grušić, Thomas Kraft, Alexander Eswine, Per Schlekbert et Marcus Wolf. Pour l'attaquant ivoirien de 34 ans, arrivé dans la capitale allemande il y a 6 ans, c'est une fin sur une fausse note. Salomon Kalou s'était en effet illustré en ne respectant pas les règles sanitaires lors du confinement ou encore en choquant avec des propos sur son salaire, qui lui ont valu une suspension jusqu'à la fin de la saison par son club. Avec 53 buts, le buteur ivoirien a tenu à remercier le club. J'ai passé un moment fantastique au Hertha Berlin avec de super coéquipiers, managers et supporters que je respecte beaucoup. Je suis pourtant très désolé pour ce qui s'est passé à la fin. Cette fin ne reflète pas du tout mon passage au Hertha, a déclaré Salomon Kalou.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Human Rights Watch dénonce les exécutions extrajudiciaires de 180 personnes enterrées dans des fosses communes ces derniers mois dans le nord du Burkina Faso. L'ONG affirme que les preuves disponibles suspectent l'implication des forces de sécurité. Yacouba Ouédraogo a joint à Washington Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
Pendant notre recherche, je parlais avec 23 habitants de la ville d'Idjibo en personne, les dernières missions à Ouaga et aussi par téléphone, que nous avons dit qu'ils ont commencé de voir le cœur découvert le matin le long des routes principales, c'est-à-dire sur la route Djibo-Ouagadougou et sur la route Djibo-Adori, sur le pont aussi dans le champ et dans le terrain vague. Et le corps était retrouvé dans un rayon des 5 km du centre de Djibo. Beaucoup étaient attachés aux mains et les yeux et avaient été abattus. Les habitants ont décrit des enterrements de masse qu'on avait lu en mars et avril. Par exemple, en début mars, ils ont enterré 114 corps dans 14 fosses communes.
Est-ce que vous avez pu avoir l'identité des personnes tuées?
Une dizaine de personnes avaient identifié leurs proches parmi les gens qui avaient été retrouvés morts, mais la plupart des gens n'étaient pas identifiés. Ils ont dit aussi que la plupart étaient le Peul et le Rimaibi.
Vous dites avoir recueilli des témoignages. Qui sont les auteurs présumés de cette tuerie?
Selon les habitants, le témoignage, la grande majorité des morts avaient été tués par les forces de sécurité. Et ils ont dit que c'était le suspect arrêté lors des opérations militaires. Ils ont dit cela pour plusieurs raisons. D'abord, une dizaine de témoins avaient vu des victimes, dont des membres de leur propre famille, arrêtés au cours des jours des semaines précédentes par les forces de sécurité, c'est-à-dire les dernière fois qu'ils ont vu leurs proches étaient dans le garde-vous de la FDS, la Force de l'Ordre. Aussi, toutes les personnes étaient retrouvées mortes avec de nombreuses autres victimes. Aussi, ils ont signalé que Djibo, c'est une ville avec une forte présence des militaires et que c'est effectivement sous contrôle de l'armée. Il y a aussi un couvre-feu, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était pas possible pour eux de que pendant la nuit, dans une ville qui s'est contrôlée par l'armée, dans laquelle il y a un coup de feu que les autres groupes armés, qui ne sont pas l'armée, pourra circuler et tuer les gens.
Est-ce que vous avez approché le gouvernement burkinabé pour comprendre? Et si oui, quelle réponse avez-vous reçue?
Oui, bien sûr. Le ministre de la Défense a répondu au nom du gouvernement. Il a engagé d'enquêter sur les allégations et a garanti le respect des droits humains dans les opérations de sécurité. Et il a suggéré que les groupes islamistes ont utilisé des uniformes et les moyens logistiques de l'armée volés. Il a noté que parfois, c'est difficile pour la population de faire la différence entre les groupes armés terroristes, il a dit, et les forces de l'ordre. Et le ministre a également confirmé l'accord du gouvernement de créer un bureau à Ouagadougou dès le Haut Commissariat des Nations Unies des droits humains.
Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
En République démocratique du Congo, les médecins ont entamé une grève alors que le nombre de personnes infectées par le coronavirus avoisine les 8000. Ayant appelé leur mouvement Hôpitaux sans médecins, ils exigent des primes de risque liées à la pandémie. D'autres agents de la riposte à la pandémie ont lancé une grève pour exiger 3 mois de salaire. Eddie Isango a joint à Kinshasa le porte-parole du mouvement, le docteur Miguel Milambo.
Notre action d'aujourd'hui, journée hôpitaux sans médecins, consiste en une réclamation de la prime des risques professionnels des médecins qui doit être payée en ce mois de juillet, les travaux ayant déjà pris fin avec à la tête le ministre de la Santé qui dirigeait ces travaux-là. Nous sommes dit, comme on ne paye pas encore, on a patienté plus de 1 mois, 2 mois, sans que nous n'ayons une suite favorable. C'est ainsi, nous sommes dit, nous devons à tout prix voir le Premier ministre. Et nous avons demandé des audiences et audiences sans réponse. Ça, c'est une insensibilité vraiment qui dépasse les limites. Nous avons décrété une journée hôpitaux sans médecin pour réclamer la prime des risques de médecin.
Jusqu'où irez-vous dans vos revendications? On sait que le pays fait face à beaucoup de problèmes, même financiers, mais surtout fait face à cette pandémie dont le nombre de personnes atteintes a dépassé ou atteint presque 8000.
Nous sommes ceux-là qui sont au premier plan devant la pandémie. Nous sommes en combat contre un ennemi très meurtrier, invisible. Dans la journée d'hier, je ne veux pas vous dire que nous avons perdu une consoeur. Nous avons perdu une consoeur à l'hôpital général de référence de Kinshasa, morte de la Covid-19. Et elle est partie non primée, sans salaire ni prime. Donc nous travaillons à nos risques et périls. Et donc nous sommes dit, nous sommes déterminés, nous ne quitterons pas cet endroit tant que le Premier ministre ne notifie les instances compétentes pour la paye immédiate en ce mois de juillet de médecins non primés. Ce n'est qu'un premier lot, on n'exige pas le paiement de tous les médecins. Nous comprenons que les lignes budgétaires peut-être ne permettront pas. Nous sommes intellectuels, nous sommes dit, nous allons y aller dans une programmation trimestre par trimestre. Voilà que nous arrivons déjà au troisième trimestre, on ne paye pas. Nous sommes dit, là, ça devient un problème de sensibilité. Nous sommes exposés des années et des années. D'aucuns penseraient même que nous réclamions parce que nous venons de finir nos études. Non, nous sommes là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et même 10 ans, sans prime des risques, n'est pas tout à fait normal. Ça, c'est la mauvaise foi, tout simplement.
Miguel Milambo, porte-parole des médecins en grève à Kinshasa.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Après des semaines de contestation au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta propose de nommer au Sénat des candidats malheureux des dernières élections. En avril, la Cour constitutionnelle a annulé la victoire d'une trentaine de candidats qui avaient été déclarés élus lors des résultats provisoires. Ces nouvelles mesures vont-elles permettre de calmer la rue ? Bagassi Koura a joint Kalilou Sidibé, constitutionnaliste à l'université de Bamako.
Ce qui est dit depuis hier soir, c'est très grave. Comment est-ce que le président de la République sait que lui, il aura 30% de ceux qui seront directement nommés par lui au Sénat, dans une constitution qui n'existe pas d'abord? Donc, si je vous montre comme si il y a un test qui est déjà là, on va mettre le peuple devant le fait accompli. Et je pense que ceux qui l'ont rencontré hier, ils sont allés un peu vite en essayant de divulguer ce genre de secret.
Pour vous, c'est un projet mort-né alors?
Je ne dirais pas mort-né, c'est les Maliens qui vont décider. Pour le moment, la majorité de Maliens, à mon sens, n'est pas favorable à ce qu'il y ait du Sénat.
Quelle autre proposition vous voyez pour une sortie de crise? Parce qu'apparemment, le week-end dernier, les gens se sont rencontrés, mais on n'a pas trop avancé.
Oui, moi personnellement, je pense qu'il faut être raisonnable. Et la proposition, les recommandations de la CEDEAO me paraissent vraiment crédibles et objectif.
Lesquels?
La CEDEAO a demandé à ce qu'on reprenne des élections partielles dans les circonscriptions qui font l'objet de contestations.
Mm-hmm.
Bon, maintenant, on dit que techniquement, c'est difficile d'organiser des élections partielles parce que dans le schéma constitutionnel, cela n'existe pas. Mais je dis qu'on est dans une situation de crise aiguë. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des décisions politiques qui peuvent ramener la stabilité et la quiétude dans le pays qu'il faut faire. Et je pense que cette proposition, ici, des recommandations de la CEDEAO, est pertinente. Si on est d'accord, parce qu'en demandant, à ce candidat léger, entre guillemets, de patienter jusqu'à la mise en place du Sénat, indirectement, ça veut dire qu'on reconnaît, qu'ils avaient gagné. Mais c'est dire que, bon, le verre est déjà tiré, on est en train de le boire, donc il faut patienter. Prochainement, vous serez intégré sans difficulté, parce que c'est vrai, vous avez gagné, mais vous avez été désigné. Et non, ça ne marche pas comme ça.
Quel sort faut-il réserver à la Cour constitutionnelle?
La Cour constitutionnelle également, la CEDEAO l'a dit, c'est une prérogative qui revient au président de la République. Quand vous regardez notre constitution, il n'y a pas de possibilité de démettre la Cour, les membres de la Cour. Mais ils sont nommés. Ils sont nommés par trois institutions. Maintenant, il faut trouver des arrangements. Et au nom de la paix, il n'y a rien qui est impossible. Je pense que si les membres de la Cour sont conscients que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui est arrivé, ils peuvent simplement démissionner, comme déjà quatre membres de la Cour ont fait. Ça contribue à apaiser la situation, ils peuvent démissionner.
Kalilou Sidibé, constitutionnaliste enseignant à l'université de Bamako.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la relance du tourisme 6 mois après le début de la pandémie de COVID-19. L'Union africaine a indiqué la semaine dernière que le continent avait perdu 55 milliards de dollars en revenus touristiques, alors que le secteur représente 10% du PIB et fournit plus de 24 millions d'emplois. La reprise annoncée des vols internationaux par plusieurs pays aidera-t-elle à la relance du secteur ? Comment assurer une reprise des activités touristiques en minimisant les risques sanitaires? Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 9 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Dans le cadre du programme Visa pour la diversité, des dizaines de milliers d'immigrants potentiels comptent sur la chance du tirage pour pouvoir vivre aux États-Unis. La loterie de la carte verte a été temporairement interrompue par l'administration Trump en raison de la pandémie de COVID-19. Pour ceux et celles qui ont déjà obtenu un visa l'année dernière, réaliser le rêve américain est toutefois encore très lointain. Vina Mouptadi de La Voix de l'Amérique a rencontré des gagnants de cette loterie. Le récit est de Lionel Gaïma.
Après avoir gagné à la loterie de la carte verte et obtenu son visa, Eric Alamja est arrivé aux États-Unis en provenance de l'Indonésie à la fin de 2019 avec sa femme, Sari et ses deux enfants. Il avait travaillé dans le secteur informatique pendant 8 ans à Jakarta, la capitale indonésienne. Malgré cette vaste expérience, il n'a toujours pas été en mesure de trouver un emploi à temps plein. Eric Alamja, récipiendaire du visa pour la diversité.
De toutes les candidatures que j'ai envoyées, qu'il s'agisse de commerce de détail ou d'autres emplois dans le domaine informatique, je ne reçois de retour d'appel que pour du travail dans les pharmacies, épiceries et magasins de rénovation. Peut-être que je devrais suspendre ma recherche et trouver un autre travail dans l'informatique.
En attendant, Alamja travaille comme caissier à Home Depot, un grand magasin de quincaillerie dans l'état du Maryland. Originaire, elle aussi, d'Indonésie, Vinia Agnesia est arrivée aux États-Unis munie de sa carte verte. Elle a abandonné sa dernière année d'études en chirurgie dentaire à Pandang, sur l'île de Sumatra, pour déménager à New York fin 2019. Sans diplôme universitaire ni expérience professionnelle, Agnesia a eu du mal à trouver un emploi à temps plein. Elle a été serveuse à temps partiel dans un restaurant japonais pendant quelques mois jusqu'à la fermeture de ce restaurant. À la suite du confinement, elle s'est retrouvée au chômage à New York, épicentre de la pandémie de COVID-19 et l'une des villes les plus chères du monde.
Mes parents s'inquiètent non seulement à cause du coronavirus, mais aussi financièrement. Comme je suis au chômage, ils se demandent comment je m'en sors et je leur réponds « Ne vous inquiétez pas, je suis légale ici, donc éligible pour obtenir l'aide du gouvernement. »
Cette aide, c'est un chèque de 1 200 $ ainsi que l'assistance chômage qui permet à Agnesia de percevoir environ 600 $ par semaine qu'elle utilise pour payer le loyer, les services publics, la nourriture et les transports, tout en continuant à chercher du travail. Sari Alamja, elle, reste optimiste au sujet de la nouvelle vie américaine, malgré toutes les incertitudes.
Nous sommes venus ici pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. Nous avons déjà pris notre décision. Nous devons passer par là, peu importe. J'espère juste que les choses iront mieux.
Les familles Alamja et Anesia font partie de quelques 55 000 personnes qui viennent chaque année aux États-Unis par le biais de la loterie de la carte verte qui, rappelons-le, donne le droit légal de travailler, mais ne garantit pas un emploi.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez